sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, de la Fédération anarchiste. Et la prochaine émission, ce sera Tempête sur les planches. Et ça commence à chauffer dans le studio Louise Michel. C'est pas parce qu'on a dansé, là, beaucoup, mais... Alors, on va vous parler aujourd'hui dans Tempête sur les planches de danser avec les fous. Voilà. Et entre-temps, bon, allez, la librairie est encore ouverte, je pense. La librairie du Monde Libertaire, au 145 de la rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, au métro République, Fille du Calvaire ou au Oberkampf. Ah oui, c'est Thomas d'Hambourg, Tempête sur les planches. Aujourd'hui, on va commencer à Bagnolet, à l'échangeur, pas pour danser avec les fous. Des fois, on y danse et il y a beaucoup de théâtre, mais peut-être que bientôt, il n'y en aura plus. Ah, et pourquoi ? Voilà, Régis Hébette va nous expliquer ce qui se passe. L'échangeur, l'existence de l'échangeur est menacée. C'est un lieu quand même que moi, personnellement, je pense que je l'ai vu naître à l'époque. Et voilà, entre-temps, nous, on a tous les deux les cheveux un peu plus gris qu'avant. Mais le théâtre s'est développé de manière très belle, et constructive, etc. Et pourtant, soudainement... Bon, il y a une politique culturelle qui veut, ou une politique non culturelle, ou une non politique culturelle qui veut que ce genre de lieu risque de disparaître. Donc on va parler de ça. Et puis, dans une deuxième partie, avec Madeleine Abassade et Nicolas Roméas, d'une aventure, c'est l'aventure d'une vie de Madeleine Abassade, qui a pendant une trentaine d'années, ou même plus, travaillé chorégraphiquement avec des, je dirais pas des détenus, mais des patients, des malades dans un institut avec les schizophrènes et autres, danser dans un milieu psychiatrique, d'où le titre de ce livre, Danser avec les fous, qu'on va vous présenter. Louise Hébet, je te salue dans le studio Louise Michel de Radio Libertaire, où il fait bien chaud comme dehors aussi. Alors, tu as créé, fondé le théâtre L'Échangeur à Bagnolet, c'était quand ?
À mettre en état la salle capable d'accueillir le public, la première salle. Voilà. Et puis depuis, sur ces 30 ans, on n'a jamais cessé d'investir de nouveaux espaces autour de ce site-là, de la cour centrale de l'Échangeur. On a ouvert une deuxième salle en 2008, puis on a ouvert ensuite des espaces de résidence pour les équipes artistiques, et puis de nouveaux... Ça, c'était en 2014, et puis on en a encore ouvert en 2019. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose comme 85 équipes par an qui bossent sur place, dont 14 ont des locaux permanents sur le site.
Alors L'Échangeur à Bagnolet, parce que c'est un petit peu ironique, parce qu'il y a là l'autoroute qui arrive à côté, c'est une manière de rentrer dans Paris. Après, c'est une sorte d'échange entre l'autoroute, le chemin vers les banlieues et les aéroports et tout ça, et Paris intramuros, et là se trouve L'Échangeur à cet endroit qui est, de ce point de vue, assez stratégique. Voilà, tu pourrais y aller et demander un petit peu d'argent aux passants, ou les inviter tous au théâtre, puisqu'ils y passent de toute façon. Alors, il fait chaud, on n'a pas entendu le tout début de ce que Régis nous a raconté, mais l'essentiel, c'est que donc L'Échangeur a maintenant une trentaine d'années d'existence. Voilà. Et oui, je l'ai vu. Entre-temps, tu l'avais fondé, et ça a même fait des petits à Bagnolet.
Oui, oui, il y a eu d'autres lieux, bien sûr, qui se sont développés. Oui, on n'a pas entendu le début de ce que je disais. Alors, je disais que c'était en mars 96 qu'on avait ouvert au public cet espace et qu'on l'avait investi 2 ans auparavant. Mais on a mis 2 ans à le mettre en état pour recevoir du public.
Ouais. Après, voilà. Effectivement, bon, c'est... agrandi, une deuxième salle a pu être construite, et on peut se poser la question, pourquoi alors une entité territoriale comme Bagnolet soutient d'abord un lieu comme ça, un lieu qui fait ses preuves, un lieu qui s'ancre dans le terrain, qui travaille avec la population, qui accomplit plein de missions, et du coup, on dit on n'en veut plus, en quelque sorte. Hein. Qui est derrière ces difficultés maintenant de financement ? Qui vous enlève l'argent, là, L'Échangeur ?
Alors, personne ne dit « on n'en veut plus ». Par contre, il y a des instances qui nous retirent des moyens, mais sans dire qu'ils ne veulent plus de L'Échangeur. Ils disent « bon, ben voilà, faudra faire autre chose », mais personne ne dit « on ne veut plus de ce lieu-là ».
On en veut, mais donc c'est que les autres donnent l'argent, c'est ça ?
Pardon ?
Mais que les autres donnent l'argent, c'est ça.
Disons que là, on se retrouve avec une très grosse baisse.
Demandez l'argent aux autres, trouvez-le ailleurs, c'est ça.
Oui, il nous renvoie à beaucoup de choses. D'abord, à des recettes propres, à notre capacité à fabriquer nous-mêmes les moyens qui nous permettent de mettre en œuvre des missions de service public. Mais on se retrouvait en fait à perdre 40% de notre financement du ministère de la Culture via la DRAC Île-de-France et 15% de notre financement du conseil départemental du 93. Donc ça suffit, en gros, pour on a perdu 100 000 euros en l'espace de 2 ans, et ça suffit pour mettre ce lieu en péril, voilà, comme je le disais, à une échéance de 12 mois. Parce qu'en fait, le lieu était déjà dans une situation économique difficile. Il demeurait à l'équilibre économique, parce qu'on peut pas faire autrement. Et ça, on a toujours su faire en sorte de ne pas dépenser plus que ce qu'on avait. Mais là, vu le montant des coupes, en fait, il y a plus de possibilités pour nous de trouver d'ajustements possibles. Ça fait 10 ans qu'en réalité, on était sur des budgets qui n'ont pas évolué. On était même sur des budgets inférieurs à ceux de 2014. Donc on a coupé progressivement dans les petits moyens alloués à la compagnie publique Chérie qui a créé le lieu. On a réduit la masse salariale du lieu, on a réduit le tirage de la plaquette de saison, la taille de la plaquette de saison, on a coupé à peu près tout ce qu'on pouvait couper partout, et on demeurait encore à l'équilibre en décembre dernier, et là viennent deux coupes qui rendra absolument impossible l'équilibre à court terme. Donc on va se retrouver avec un gros déficit cette année de 60 000 euros à peu près. C'est un déficit qu'on pourra en gros assumer une année, mais on est incapable de l'assumer deux années. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté de dialoguer avec nos interlocuteurs, mais qui ne souhaitaient pas revoir leur positionnement. Ça a été très difficile déjà d'établir le dialogue. Et donc, on a décidé de rendre la chose publique et on a organisé le 16 juin dernier une première rencontre publique où il y a eu beaucoup de monde. Et il y a eu plus de 250 personnes. Préalablement, il y a eu beaucoup d'échanges sur les réseaux. Le communiqué de l'échangeur a été beaucoup partagé. On a reçu énormément de messages de soutien. Et quelque chose s'est un peu cristallisé autour de la lutte de ce lieu. Aussi parce que les équipes artistiques sont très nombreuses à être en péril et que c'était pas si évident pour elles de trouver les endroits où se mobiliser quand une équipe artistique est en difficulté, elle est aussi un peu seule, et là il y avait moyen d'organiser quelque chose de plus collectif, et c'est ce qui s'est passé. Donc on a organisé cette première rencontre le 16 juin, préalablement, immédiatement, dès que ça a fait un peu le buzz sur les réseaux, on a été appelé par nos interlocuteurs institutionnels, avec lesquels on avait grand mal à rentrer en contact précédemment. Et puis on a organisé une deuxième rencontre le mercredi dernier, qu'on a intitulée « Les politiques publiques de l'art et la culture nous concernent tous ». Et on a notamment donné la parole à beaucoup d'acteurs du territoire, qu'ils soient enseignants, travailleurs sociaux, appartenant au tissu associatif. Voilà, et on s'est aperçu, en tout cas ceux qui ne le savaient pas, que c'est un lieu qui est très ancré sur Bagnolet et bien sûr au-delà. Et ce qui s'est passé, c'est que la décision a été prise pendant cette assemblée de constituer un collectif sous le nom de Les Amis de l'Échangeur, et que ce collectif se positionne en interlocuteur des partenaires publics, de façon à faire entendre que cette fermeture possible de l'échangeur en juin prochain, ça affecte un très très grand nombre d'acteurs sur le territoire, quoi.
Oui, on est dans ce qu'on peut appeler, même si c'est un peu grandiloquent, c'est quand même un choix de civilisation, de politique culturelle, c'est-à-dire est-ce qu'on veut vivre dans un monde où le cerveau des gens n'est pas occupé uniquement par la nourriture, etc. Tu peux bien sûr acheter du café moins cher pour le bar de l'échangeur, etc. Mais l'idée même d'autofinancement est trompeuse. Je veux dire, on imagine mal l'échangeur. On imagine mal que tu le loues au comité d'entreprise pour y faire, je sais pas, des présentations ou des défilés de mode, ou je sais pas quoi. À l'Opéra de Paris, ils le font pour générer des recettes, mais un lieu comme l'échangeur, il perdrait un peu son âme.
Ça, c'est certain. Ceci dit, on le fait déjà. Il y a 40% des locaux qui sont partagés avec des équipes qui, si elles ne payent pas le prix que nous coûtent les locaux, participent économiquement et couvrent une grande part des coûts de locaux qu'elles occupent. Et puis par ailleurs, on fait aussi, notamment ces dernières années, beaucoup de locations d'espace pour essayer de boucher le trou laissé par la baisse de financement qu'on connaît et la stagnation préalable. Mais ce que aussi les acteurs qui occupent cette maison ont compris, que ça soit les équipes artistiques ou les associations, les travailleurs sociaux, c'est que si on fait de la loc, on n'y fait pas autre chose. Donc en réalité, c'est sur leur possibilité à eux d'être présents au sein de ce lieu qu'on est en train de rogner. Donc c'est pour ça qu'ils se positionnent collectivement en disant « mais attendez, nous ça nous va pas du tout ». Et nous, on ne souhaite plus parler avec les interlocuteurs, je dirais, administratifs, mais on veut que les élus se positionnent sur ces questions et qu'ils aient un dialogue véritablement avec les acteurs de terrain dans leur diversité. La première rencontre, on a eu le maire de Bagnolet qui quand même a pris la défense de l'échangeur assez tôt. Depuis septembre dernier, il était en dialogue notamment avec la DRAC et le département pour essayer faire en sorte qu'il y ait une concertation. Donc le maire était là, il y avait aussi le député de la circonscription, Alexis Corbière. Il y avait aussi une députée de la France Insoumise, Sarah Legrain, qui est responsable de la commission culture de LFI au Parlement. Et ça compte, parce que la chose première, bien sûr, c'est qu'il y ait une mobilisation, c'est-à-dire que les concernés soient présents, mais c'est très important qu'on marche sur deux pattes et qu'il y ait aussi un relais politique à cette mobilisation. Voilà.
Et donc, bien sûr, on pourrait maintenant dire, oui, vous, artistes, etc., vous vous accrochez à votre petit précaré, etc., pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner de l'argent public pour subventionner des lieux et les emplois, etc. Mais voilà, ce sont des choix à faire, et tant que nous vivons dans un système qui est organisé tel qu'il est, une politique culturelle, le soutien aux artistes est essentiel. Donc dans ce sens, tu peux nous dire un peu plus sur le lien entre le lieu, l'échangeur et la population qui vient de Bagnolet et d'ailleurs, comment vous tissez les liens avec les habitants?
Déjà, ce que je peux dire, c'est que l'échangeur, je l'ai créé dans la ville où j'ai toujours vécu. C'est-à-dire que j'ai grandi dans cette ville-là. Donc j'y ai forcément des liens anciens avec tout un tas d'acteurs. Il se trouve que j'y ai fait du sport, j'y ai pris part à la vie associative, j'y suis allé à l'école, bien sûr. Voilà, donc c'est une ville qui fait un peu moins de 40 000 habitants. Donc il y a déjà tout un tas de liens qui existent. Du fait que j'ai grandi là et je connais très bien cette ville. Mais après, c'est vrai qu'on a, notamment avec toutes les équipes qui sont ou de passage ou posées à l'échangeur, jamais cessé d'initier des projets dans les collèges, dans les centres de quartier, autour des pratiques, autour de la rencontre des œuvres. Et on a aussi beaucoup accueilli d'initiatives qui n'étaient pas directement ou étroitement reliées à la question artistique. Par exemple, on a été très présent au moment des mouvements de grève où les syndicalistes nous ont sollicités parce qu'ils étaient dépossédés de tout espace pour se réunir. On l'a fait avec les cheminots, les syndicalistes de la RATP, aussi avec les enseignants. On l'a fait aussi autour beaucoup de manifestations autour de la Palestine. On a fait sur un certain nombre de choses qui nous semblaient avoir toute leur place dans un théâtre, même si c'était pas directement relié à la question artistique. Donc c'est à travers tous ces échanges multiples, des fois des choses où nous sommes les maîtres d'œuvre de l'initiative, des fois où des moments où nous accueillons simplement les équipes et co-construisons avec elles leurs projets. C'est une multitude de liens, et je crois que c'est ça qui est ressorti aussi assez fort dès la première rencontre le 16 juin. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de dire, mais la deuxième rencontre, il faut la centrer absolument sur cette question. Les artistes ne sont pas hors sol. Il est faux de nous faire croire que ils travaillent à l'apparition de leurs petits caprices et que c'est ça qui coûte de l'argent. Non, c'est pas vrai. Les artistes, très souvent, ils sont présents dans les régions, dans les zones qu'on appelle blanches, dans les banlieues. Ils sont à beaucoup d'endroits. Et ils sont absolument pas coupés de la population. Et il faut maintenant faire entendre ça, parce qu'il y a un discours qui essaye de nous faire croire le contraire. On a entendu Morisset dans Les Pays de la Loire, on a entendu Vauquier, etc., etc. Or ça, c'est C'est un travail de propagande, mais la réalité, elle est souvent très différente. Et c'est ce que je crois, c'est ce qu'il est ressorti de ces deux premières rencontres. On va en faire une prochaine mercredi prochain à 19h à l'échangeur. C'est évidemment ouvert à tous. C'est vraiment une réunion de travail collectif où on s'interroge sur comment on fait pour se ressaisir collectivement de ces questions, comment on fait pour qu'un dialogue direct existe avec les politiques. J'insiste sur ce point parce que c'est aussi leur travail de se prononcer sur ces questions.
Alors, tu, Régis, donc vous êtes sur Radio Libertaire, Tempête sur les planches sur Radio Libertaire 89.4. Et tu as utilisé le mot de multitude, et alors il y a une autre multitude, c'est justement la multitude des lieux, des festivals qui sont en danger, qui ont de toute façon toujours vécu dans un équilibre financier très précaire et qui sont de plus en plus menacés. Alors, les écrivains associés du théâtre nous parlent aussi du studio Théâtre de Charenton, du théâtre studio d'Alfortville, de plusieurs festivals, et pas seulement dans la petite couronne parisienne, mais partout en France. Et curieusement, on peut se demander pourquoi, ce sont justement ces lieux-là qui sont mis en difficulté. Ce sont les lieux où des artistes pas encore très connus, mais avec beaucoup de talent, peuvent venir montrer leur travail, où ils peuvent rencontrer aussi un public qui est déjà un peu averti, et avoir des échos, peuvent se développer, etc. C'est là que naissent, que apparaissent les artistes qui vont être connus, qui font leur preuve et qui vont prendre l'importance, peut-être 4-5 ans plus tard. Si ces lieux-là ne sont pas là, ça appauvrit vraiment toute la création artistique, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Ça, c'est une des questions qu'on s'est posée dès le début de notre mobilisation, c'est-à-dire de se dire comment on s'y prend, étant donné que nous, on est en grand danger de disparaître, mais qu'on n'est pas tout seul. Et comment on articule ces deux questions, c'est-à-dire à la fois la lutte nécessaire pour défendre ce lieu et comment on parvient à la relier à quelque chose de plus large, sans perdre, sans faire disparaître la problématique directe qui est la nôtre. Donc ça, c'est vraiment l'angle sous lequel on a initié ce mouvement. Là, on a l'ambition, notamment, on a commencé à se rapprocher d'un certain nombre de lieux, de porter la question spécifiquement sur un certain nombre de lieux qui sont attaqués. T'as cité Alfortville, le théâtre de l'opprimé, on pourrait citer Ramdam à Lyon, on pourrait citer les difficultés de la fonderie, le Cube à Hérisson en région, etc., qui sont tous des lieux qui accompagnent les équipes artistiques et qui ont des types de fonctionnement qui sont pas directement institutionnels. Effectivement, c'est à cet endroit-là que l'attaque est portée. Alors, évidemment, ça n'est pas tout à fait un hasard. Il y a vraiment une volonté de recentrer autour des lieux institutionnels, autour des lieux labellisés. Je dirais aussi autour des lieux contrôlés. Le mot n'est pas trop fort, puisque pour ma part, je dirige un lieu dans lequel je n'ai jamais été nommé. Voilà. Or, je pense qu'il y en a plus beaucoup des lieux comme ça en France où la direction n'est pas nommée par les collectivités publiques ou par l'État. Et ça pose un problème. Donc, effectivement, ce sont toutes les marges de manœuvre et toute la liberté que les équipes trouvent à ces endroits-là qui est en question. Ça donne vraiment la sensation qu'il y a une tentative de contrôle de l'ensemble des pratiques et de faire en sorte que tous les acteurs de la vie artistique et culturelle se trouvent entièrement dépendants d'un réseau institutionnelles, de ces logiques administratives, pour ne pas dire bureaucratiques et technocratiques. Parce que ça, c'est une vraie question. Nous sommes confrontés à des logiques technocratiques absolument envahissantes qui font que aujourd'hui, les équipes artistiques, bah, pour exister, il faut qu'elles rentrent dans des appels à projets qui sont complètement bordés. On ne part pas, comme ça pouvait être le cas il y a quelques années, d'un désir de l'artiste de dire, bah, voilà, je souhaite travailler sur telle chose de cette façon-là. On renverse, la chose a été renversée, et maintenant on nous dit, bah voyez, il y a un appel à projet sur telle question, je dis n'importe quoi, la diversité, l'écologie, à vous de développer quelque chose qui va rentrer là-dedans. Donc là, et puis derrière, vous avez des interlocuteurs qui méconnaissent très largement les réalités qui sont les nôtres, et on se retrouve très fréquemment dire bah non, finalement ça rentre pas dans l'appel à projet, etc. Donc il y a vraiment une logique comme ça à l'œuvre, d'où mon insistance pour que les questions redeviennent des questions politiques et pas seulement des questions d'organisation technocratique.
Oui, technocratique et dans des relations disons transactionnelles, hein. Une sorte de deal qui se fait dans l'esprit très capitaliste.
Oui, je crois que oui, c'est vraiment le mot n'est pas trop fort. Voilà, je pourrais lire les passages de conventions qui nous lient à nos partenaires. Ça fait assez froid dans le dos de penser qu'une collectivité publique peut imposer ça à des acteurs du territoire dans ces termes-là, dans ce type de relation-là. C'est effectivement, il y a beaucoup de gens parmi les équipes artistiques qui n'hésitent pas aujourd'hui à parler de maltraitance institutionnelle. Et dans les choses qu'on essaye de mettre en avant, il y a notamment qu'on désire que d'autres types de dialogues, d'autres pratiques soient mises en œuvre. On ne peut pas se retrouver à apparaître comme étant des exécutants, voire des exécutants inefficaces, parce qu'on a bien des fois l'impression qu'on nous parle comme si on était des élèves et même des mauvais élèves, ce que nous ne sommes pas.
Alors, ensemble, alors tous à l'échangeur, mercredi prochain. C'est ça?
Tout à fait, à 19h.
Donc en ce moment, je crois que là, il y aura des bus de remplacement. Ils ferment la ligne de métro entre Gallieni et Opéra. Ils mettent en place des bus qui remplacent le métro, mais on pourra toujours y aller.
Qui arrive juste devant le théâtre.
Et peut-être pas seulement pour cette réunion, ce rassemblement, mais peut-être aussi un jour avant ou après, ou le même jour, je ne sais pas, pour voir un spectacle ou quelque chose. Vous présentez quoi en ce moment à l'échangeur?
Alors ce matin, nous avons terminé la dernière date de la saison avec l'ensemble Instant Donné, qui est un ensemble d'une douzaine de musiciens, qui est à demeure sur le site, et qui propose chaque dernier dimanche du mois, à 11h du matin, un horaire assez improbable, à chaque fois un programme nouveau. Et c'est des très très beaux moments de rencontre, c'est gratuit, et c'est un temps aussi où les musiciens... développe tout un propos autour de l'histoire des œuvres, leurs spécificités, des propos musicologiques, historiques. Et voilà, c'est un très beau moment. Mais là, on reprendra maintenant ces derniers concerts du mois que fin septembre. La prochaine date, ça sera tout début de septembre. J'ai plus la date exacte, mais ça se trouve sur le site de l'échangeur, avec un autre festival de musique contemporaine qui s'appelle Ensemble et qui rassemble cinq ensembles d'envergure nationale sur une manifestation de 4 jours.
Alors, mais les gens n'ont qu'à amener, je sais pas, des instruments de musique pour... c'est une belle cour, on peut y danser, on peut... un peu de fantaisie, voilà. mercredi à 19h, à l'échangeur à Bagnolet, évidemment, métro Gallieni, même si le métro va être fermé entre Opéra et Gallieni, mais il y aura des bus, voilà. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, c'est Tempête sur les planches avec Thomas de Hambourg. Thank you.
these weekends taken over by one big arm. They mesmerize skeletons. Kiss with girls, kiss with girls. Easy does it. Does it easy? Does it make up something to say?
Girls are turning us into monsters, turning us into fire, turning us into monsters. It's all desire, it's all desire, it's all desire.
Drink it out, pacify, take it soft, where you are.
Je t'ai rencontré par hasard, ici, ailleurs ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, même si ce n'est pas vrai. Il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans, on peut vivre de l'air du temps. Mon point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine. Et nos soirées sans cinéma et mon succès qui ne vient pas. Et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours. Profites-en, mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi, comme c'est triste, tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais. Tu lui diras que je m'en fiche.
C'est le bon vieux Léo sur Radio Libertaire dans Tempête sur les planches avec Thomas Dambourg. Et voilà, c'est parce que justement, la vie d'artiste n'est pas toujours facile, justement parce qu'il y a cette image-là des artistes qui travaillent pour eux-mêmes, pour s'amuser, pour s'éclater, etc. Mais souvent, ils font des choses qui sont sacrificielles, qui font sens, et qui sont du soutien aux autres. Donc cette générosité-là, c'est toute l'affaire de toute la vie de Madeleine Abbassad, qui est là, et elle a écrit un livre sur cette grande aventure. Ce livre s'appelle « Danser avec les fous, expérience de l'art en milieu psychiatrique à l'Institut Marcel Rivière, 1981 à 2015 ». Donc ça a pris quand même, après la fin de ça, un peu de temps avant d'arriver à coucher tout ça sur papier, faire le bilan, et nous expliquer ce qui s'est passé du début à la fin, avec beaucoup d'artistes qui sont venus dans les années 1980 et plus tard aussi, qu'on connaît très bien, que même moi je connais d'une manière ou d'une autre, que ce soit Bart Abbas, que ce soit les Black Plumber, que ce soit José Montalvo et Dominique Hervieux, que ce soit la compagnie Retour à Mont, que ce soit Alexis Forestier, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais Alexis Forestier, par exemple, il a travaillé là, et il est venu quand même régulièrement ici aussi parler de son travail dans Tempête sur les planches, justement, parce qu'il a aussi présenté ses spectacles à l'Échangeur, à Bagnolet, à Alexis, etc., etc. Mais le thème du livre, ce n'est pas quels artistes sont venus travailler là, c'est pas ça, c'est les malades, en fait, les patients. Comment on travaille avec eux et dans quel contexte, comment il faut défendre ce travail, comment ce travail peut aussi être attaqué, parce que c'était un théâtre dans lequel tu as commencé, Madeleine, et ce théâtre n'existe plus. C'est en ce sens aussi que il a été précurseur de manière très négative à ce qui peut arriver à beaucoup de lieux aujourd'hui. C'est une grande aventure, c'était d'abord une avancée et puis un grand recul dans la politique culturelle, dans le soutien, dans la volonté d'introduire la création artistique, les démarches artistiques dans la société, parce que cet institut psychiatrique, là où il y a ces malades, fait partie de la société, et les faire participer à des échanges artistiques, c'est les positionner comme des gens qui font partie de notre société, au lieu de les écarter. Voilà, alors, Madeleine, je te salue.
Bonjour Thomas.
Voilà, alors c'était une longue aventure, c'est l'aventure d'une vie, et après un long travail sûrement pour arriver à publier ce livre qui est sorti chez Langage Pluriel.
Oui.
Voilà, Danser avec les fous. Maintenant, tu peux nous présenter, encore tu peux nous dire plus sur le lieu où tout ça a eu lieu.
Alors, c'est... Ça se passait à l'Institut Marcel Rivière, dans lequel avait été construit un théâtre de 400 places. Donc, à l'intérieur même de l'enceinte de cet hôpital psychiatrique, dans les années 60, 62, ce théâtre ouvre pratiquement en même temps que l'hôpital. Ce théâtre se trouve à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement psychiatrique de la MGN. Et quand j'arrive au tout début des années 80, précisément septembre 80, le théâtre fonctionnait depuis 62, il avait été fort actif, et quand j'arrive, depuis une petite dizaine d'années, ce théâtre s'était progressivement désertifié. Il est quasiment vide quand j'arrive, et mon prédécesseur est en partance et cherche quelqu'un pour le remplacer. Il faut que ce soit quelqu'un de l'éducation nationale. Je suis danseuse, je suis de l'éducation nationale. Il me propose de lui succéder. Mon inspectrice de circonscription est d'accord. Je viens de sortir de l'école normale d'instituteurs et je suis donc nommée à l'Institut Marcel Rivière, en tant que sur un poste d'animateur pédagogique et pas en tant que directrice du théâtre, mais la direction de l'hôpital, quand j'arrive, me donne les clés de ce lieu, de ce théâtre. Elle me donne en fait un pass qui me permet de rentrer dans tous les lieux de l'hôpital, ce qui me paraît très étrange. Et au bout de quelques années, je vais demander qu'on me donne les clés du théâtre et qu'on les différencie des autres lieux de l'hôpital, et je vais progressivement revendiquer que ce théâtre soit reconnu comme tel et pas du tout investi par des thérapeutes en mal de lieux pour se produire, et je revendique que cet espace soit réservé pour la pratique artistique avec des patients auxquels vont se joindre du public extérieur et des artistes, et je vais travailler sur la mixité sociale avec cette idée d'une politique culturelle qui fait bouger la question de l'en-dehors et de l'en-dedans. Il ne s'agit pas de faire de la politique, mais bien d'agir le politique, c'est-à-dire qu'un espace d'enfermement, comme l'a défendu Tosqueyès, Oury, Frantz Fanon, un espace d'enfermement est sans cesse à questionner, il s'agit de le penser comme espace politique. Donc ce qu'on va défendre, on en hérite de Tosqueyès et tous ceux que je viens de nommer, c'est comment faire circuler l'en-dehors dans l'en-dedans et ne pas renforcer notre mise à la marge. Et c'est par l'art et la culture précisément que nous allons le faire, évidemment, avec les patients qui sont le premier public de ce théâtre, auquel vont venir se joindre les familles et mes enfants et les habitants des environs de l'hôpital et au-delà. Donc, il va s'agir de faire savoir qu'on existe. Et ça va être un peu un combat.
Voilà, Madeleine Abbassade pour Danser avec les fous, expérience de l'art en milieu psychiatrique à l'Institut Marcel Rivière. Tu peux nous parler de toi-même, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené dans cette aventure ?
Alors, je suis arrivée à Marcel Rivière, je venais d'avoir 23 ans et je sortais donc de l'école normale d'instituteurs et je pratiquais la danse depuis mon enfance, le théâtre aussi. Et je souhaitais trouver un poste dans l'éducation nationale où je pourrais pratiquer la danse. C'était un rêve fou parce que ça n'existe pas. Et en fait, j'en ai trouvé un puisque j'ai été nommée à l'Institut Marcel Rivière, qui est donc cet hôpital psychiatrique de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, et qui disposait, par héritage de la Résistance, de postes d'instituteurs parmi son personnel d'encadrement, d'accompagnement. Donc il y avait un poste d'instituteur chargé de l'animation pédagogique, et l'animation pédagogique, c'était aussi s'occuper du théâtre, de la vie artistique et culturelle, et je veux donc devenir danseuse parce que je danse depuis l'enfance, parce que c'est l'art qui me maintient en joie, qui me fait rêver, qui me fait rencontrer les autres. Je fais aussi du théâtre parce que j'aime jouer. J'aime jouer avec les autres. Et comme Nijinsky, je dirais que danser ou jouer, c'est la même chose. Quand on danse, on joue. Et à l'hôpital psychiatrique, ça va être fort intéressant d'arriver avec cette idée d'avoir envie de jouer avec les autres et pas de faire semblant, ni d'établir des rapports de hiérarchie. Toi, tu es malade, donc tu es inférieur. Parce qu'on est quand même dans une relation comme ça, face à ce qu'on appelle, entre guillemets, comme dirait Nicolas Roméas, le fou, terme qu'on évite d'employer. Mais justement, il s'agira d'un combat sur l'égalité des rapports. Et je crois que de revenir sur Frantz Fanon dans la période où il, en tant que psychiatre, il se retrouve à Blida en pleine guerre d'indépendance de l'Algérie, il va théoriser, après avoir fréquenté justement Tosqueyès, cette idée de respecter l'autre dans sa différence et de questionner ce qu'il en est de considérer l'autre comme un inférieur, comme un imbécile, comme un menteur, etc., sans questionner la dimension politique dans laquelle cette personne se trouve et moi-même je me trouve.
Et tu t'es intéressée, tu t'es construite en tant que danseuse, artiste chorégraphique, comme on dit aujourd'hui, aussi à travers les danses du Maghreb, tu nous dis ça, et les danses antillaises, ce qui était, j'imagine, à l'époque, assez étrange comme démarche.
Ah oui, mais je ne me posais pas la question de l'étrangeté. L'avantage avec en pratiquant les danses du Maghreb, c'est que j'ai pu aller travailler avec des enfants de trappe, par exemple, où dans leur famille on pratiquait, on dansait, pour ce qui est des familles d'origine maghrébine, mais aussi j'ai pratiqué les danses africaines. C'était assez la mode dans les années 80 quand même, les danses africaines, maghrébines moins. Et c'est par le biais de l'école normale d'instituteurs. Je pense qu'il y avait que je me suis mise à pratiquer les danses maghrébines du Maghreb et avec précisément un chorégraphe algérien, algérois, Eladi Chérifa, qui avait été formé à Moscou, donc en danse classique. Et lui, il va renouer avec les danses traditionnelles et nous les transmettre. Et dans les écoles arrive une population d'enfants issus des immigrés d'Afrique du Nord, comme on dit, Et avec les Lions du Maghreb, nous sommes sur une recherche d'un terrain culturel commun. Faute de parler la langue, nous avons la danse, quoi. Donc ça, ah, c'est vrai. C'est...
Mmh. Et puis, vous avez vous-même, donc toi et des gens comme José Montalvo, devenu très célèbre depuis, mener des ateliers chorégraphiques avec ce public-là, avec ces malades. Et c'était vraiment une aventure très particulière, où se passaient aussi des choses assez imprévisibles par la réaction, même quand vous faisiez des spectacles, etc. Et tu te constates toi-même dans le livre, une, je cite, une aisance à parler avec les malades. Ça, c'était quoi? Et ça venait d'où?
Quand je pense à cette aisance à parler avec les malades, je dirais que c'est une aisance à parler avec les gens. Pour moi, un malade, c'était d'abord un gens, des gens. On s'appelle tous gens. Donc, il y avait ça, oui. Et ça me renvoie à cette peur de certains soignants, psychiatres, disant, attention, il faut la cadrer. Elle parle aisément avec les malades. Et donc, il y avait, quand je repense à ça, il y avait une volonté de maintenir la distance avec les patients. Et moi, j'arrivais aussi d'une formation politique extrêmement rigoureuse qui questionnait les différences de classe et la question du dominant-dominé que j'évoquais tout à l'heure avec Fanon, mais que va questionner Tosquelles, que va questionner Houry, même Guattari. Enfin, c'est une pensée politique. Donc, eh bien, ça me vient du respect de l'autre dans sa différence et une envie de partager des savoirs comme celui de la danse quand José arrive, donner envie de danser, ça vient de là. Après, bon, est-ce que ça fait écho avec mon histoire familiale, personnelle? Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup de familles qui sont concernées par l'histoire de la souffrance psychique et de la discrimination, de la stigmatisation. Donc, voilà.
Alors, tu parles effectivement d'une grand-tante à toi qui était patiente en psychiatrie suite à une histoire d'amour déçue. Ce qui fait un peu penser à Gisèle, au ballet romantique.
Ah, tout à fait, oui. Ah, oui, oui. Oui. Oh oui, mais d'ailleurs, ce ballet, c'est le premier ballet romantique, d'ailleurs. Ben c'est vrai que Gisèle m'a toujours touchée comme ballet pour son histoire, pour son propos. Et c'est pourtant un ballet avec un récit, je suis pas toujours très touchée. Mais alors là, c'est fort, oui, de mettre en scène la folie qui vient de la grande frustration de l'amour. Manquer d'amour et Madeleine, puisque ça s'appelait ma grand-tante comme ça, elle s'appelait Madeleine. On m'a toujours dit, oui, qu'elle s'était retrouvée à l'hôpital psychiatrique par déception amoureuse profonde. Mais c'est vrai qu'on en meurt des histoires d'amour ratées. Je veux dire, l'histoire de l'art en est pleine. Enfin, on peut mourir d'autre chose, mais celle de l'amour raté, l'amour de l'enfance ratée, ça peut faire drôlement souffrir et vous conduire à l'hôpital. Hein. Oui, ça, oui, c'est voir au suicide.
Après, c'était une histoire d'amour aussi avec, justement, avec ces amateurs qui étaient à cet institut psychiatrique. Et ce théâtre a été démoli après. Et ça aussi, c'est... Bon, ça perturbe de voir un lieu comme ça où se sont produits autant de belles histoires qu'on les démolit, finalement.
Alors, moi, je dirais pas qu'il a été démoli. Au contraire de l'échangeur, nous, il nous restait de l'argent quand on m'a annoncé en 2015 que le théâtre allait être démoli. Donc, c'est pas le manque d'argent qui justifiait qu'on allait le démolir. Je dirais qu'on... pas qu'on l'a démoli, je dirais qu'on l'a assassiné. Et Nicolas Roméas, qui m'a accompagné là dans l'écriture de ce livre, parce que j'avais besoin quand même d'un soutien moral et quasi artistique et littéraire pour pouvoir poser sur le papier cette aventure, oui, avec les patients, cette aventure de l'art engagé. Et je lui ai dit, bon, c'est un assassinat. Il m'a dit, oui, tu peux le, oui, tu peux le dire.
Oui, et cet assassinat, c'est une volonté politique ou une non-volonté politique de soutien, de communication, d'intégration, de considérer ces personnes-là comme des êtres humains qui font partie de la société. Et comme tu l'écris très bien dans le livre, vers 2004-2005 a commencé une grande campagne où on les stigmatisait, on recommençait à les stigmatiser. Jusque dans les années 50, la psychiatrie ressemblait totalement à une institution carcérale. Et puis, il y avait cette ouverture pour laquelle tu t'es battu contre beaucoup de résistance. C'est assez croustillant, des fois, ce qu'on lit dans ce livre-là, et ces aventures. Et puis, ce revers et cette stigmatisation nouvelle.
Ouais. Oui, il y a un retour. Il y a un retour. Est-ce qu'il y a un autre exemple dans l'histoire comme ça où il y a une avancée pour ce qui est de la psychiatrie? Après la Seconde Guerre mondiale, on va parler d'une révolution psychiatrique avec une humanisation des hôpitaux psychiatriques, avec des gens comme Tosquelles, Fanon, Houry, Guattari, Sivadon, celui qui a fondé l'Institut Marcel Rivière avec la MGN. Il va y avoir une humanisation et on va construire des hôpitaux avec une idée de communauté soignante. On déhiérarchise, on respecte, les médicaments arrivent, ça a du sens, parce que ça peut être utile aussi, la molécule chimique. On n'attache plus les patients. Bon. Et puis voilà, que progressivement, effectivement, à partir de... Hélas, assez vite, disons, les années 95, sourdement apparaît l'idée que c'est en train de se perdre. C'est en train de se perdre et qu'il y a un retour de la... Écoute, je me laisse aller à dire, un retour de la peste brune. Il y a quelque chose qui est en train de grignoter le territoire et qui, effectivement, à partir précisément de 2004-2005... va apparaître sous l'aspect d'un discours dans la presse avec une stigmatisation du schizophrène comme meurtrier dangereux. Et quand Nicolas Sarkozy devient président de la République, il va renforcer cette stigmatisation et donner des moyens dans les hôpitaux psychiatriques pour renforcer l'enfermement, revenir à l'enfermement, demandant qu'on installe des caméras, qu'on réintroduise les chaînes, enfin les formes de chaînes. Mais pourquoi en fait? Eh bien parce qu'il y a une diminution du nombre d'infirmières, de médecins. C'est-à-dire que économiquement, il y a un choix qui est fait contre le patient. Moins de personnel, bon, on va mettre une caméra. Alors, pour que le patient ne dérange pas, ben on l'attache. Alors là, on pourrait dire, mais elle exagère. Non. Parce que pour pouvoir écrire ce livre et travailler à Marcel Rivière, je me suis déplacée dans plusieurs hôpitaux, à partir de justement 2005, mais même avant, parce qu'on était allé danser à la Borde. Et je suis allée questionner à droite à gauche, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au congrès des Croix-Marines, où le thème était le retour des chambres d'isolement et d'internement. Il y a eu un débat dans la salle. Moi, j'étais pas thérapeute, donc je pouvais que poser la question. On venait de faire un film avec un comédien sur l'injection forcée et la surveillance par l'oculus du patient qu'on enferme dans sa cellule, sur un matelas posé à même le sol. Et dans la salle, au moment de la discussion, il y a des soignants qui avaient honte, qui déniaient la situation, et d'autres qui disaient « Oui, c'est vrai, il y a un retour. Il y a un retour » de la maltraitance pour des raisons de choix économiques.
Alors, la presse. Il y a cette presse, la populiste, manipulatrice, presse qui véhicule ces idées d'exclusion, de haine. Et il y a une autre presse à laquelle tu as participé aussi, parce que dans la revue Cassandre, tu as signé régulièrement des articles où il était question justement de ce genre de travail dans ce contexte-là, et c'était toute la... Et c'est pas un hasard non plus, hein, je me tourne vers Nicolas Roméas qui a fondé la revue Cassandre, c'est pas non plus un hasard que cette revue-là n'existe plus. Et tu as quand même ouvert les pages de la revue Cassandre à Madeleine pour parler de ces aventures-là, puisque c'était toute la vocation de cette revue Cassandre. Et on voit très bien à travers ça aussi comment la société est en train de changer.
C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on s'appelait Cassandre.
Oui.
C'est parce qu'on imaginait un peu comment ça pouvait se... à quoi ça pouvait mener ce lâchage progressif dont il a été question tout à l'heure, des politiques vis-à-vis de cette chose essentielle, construite et reprise après la guerre, surtout, évidemment, parce qu'il nous faut des catastrophes pour comprendre les choses les plus évidentes. Sinon, on les comprend pas. Aussi bien dans le domaine que dont Madeleine vient de parler, la naissance de la psychothérapie institutionnelle par tout ce qui est à Saint-Alban, et toute l'affaire du service public et toute l'affaire du service public de la culture après-guerre, c'est l'acquis sur lequel nous avons essayé de travailler avec cette revue, et qui est née à peu près au même moment que le théâtre de l'Échangeur, fin 95, et nous avons en 97 organisé une grande rencontre nationale pour l'action culturelle et artistique, dont la première édition a eu lieu au TGP de Saint-Denis, au Théâtre Gérard Philippe. Et c'est là que j'ai rencontré, en 97, Madeleine Abbassade, qui était une travailleuse extrêmement minutieuse, humble et, comment dirais-je, pas du tout dans le spectacle. C'était une des personnes qu'on rencontrait qui n'était pas du tout dans l'idée de se montrer, de briller, etc., qui faisait un travail précis, minutieux, etc., et ça m'a beaucoup marqué. Et quand par la suite nous avons eu l'occasion, au fur et à mesure du développement de cette revue, dont l'objet était de comprendre comment ça se passe quand un geste artistique dans une communauté humaine est un outil indispensable, et à quoi réellement ça, si j'ose dire, ça sert, qu'est-ce que ça produit comme effet dans une collectivité humaine, c'est tout ça dont nos politiques ne veulent pas entendre parler, c'est tout ça dont les ultralibéraux veulent se débarrasser. Cette réflexion-là, qui est une réflexion fondamentale pour notre avenir à tous, hein, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de la raison, de la logique, ni du chiffre, et qui sont fondamentales à l'être humain. Lorsque ensuite on a été avec notamment Edith Rapoport, que tu connais aussi, dans différents lieux, hôpitaux psychiatriques, prisons, etc., et qu'à un moment donné on s'est retrouvé à l'hôpital Marcel Rivière, voir le travail que produisait Madeleine avec des artistes et des patients, et ben ça a été une des premières fois où j'ai compris. Et j'ai vécu, ça a été initiatique, j'ai compris ce qui se passait profondément. C'est-à-dire que si on se contente d'aller dans les salles de spectacle, on ne comprendra jamais. Si on se contente d'aller dans les musées, on ne comprendra jamais. Si on se contente d'aller dans les galeries, on ne comprendra jamais ce que c'est que cette fonction de l'art. Cette fonction de l'art, elle se découvre dans les lieux où c'est quasiment impossible. Elle se découvre dans les lieux où il y a une telle difficulté de communication et de relation que seul ce geste-là peut faire passer la relation. C'est-à-dire, c'est du symbolique, c'est de l'ordre du symbolique, c'est pas du tout de l'ordre du rationnel. Et donc, Madeleine, moi, Olivier Perrault, qui est... Tu as participé à cette aventure, Thomas, donc tu en connais les acteurs. On a travaillé là-dessus on a appris des choses en le faisant, on s'est appris réciproquement des choses, et à un moment donné, Olivier Perrault, qui était le graphiste, j'appelais le grand imagier de Cassandre Orchamps, s'est trouvé à travailler avec Madeleine, par une suite de circonstances qui font que les petits groupes produisent de l'énergie entre eux. Et ils ont travaillé ensemble pendant 8 ans. Et Olivier est un plasticien magnifique et humble, comme souvent les gens qui ont beaucoup de talent. Et ils ont fait un super boulot ensemble. Et à un moment donné, c'est devenu une aventure qui a été très importante pour nous, parce que c'était une des aventures à laquelle on participait un petit peu, de près ou de loin, puisque Madeleine écrivait aussi dans la revue. Elle écrivait de l'intérieur ce dont elle vient de parler là, c'est-à-dire les désastres provoqués par des gens comme Sarkozy sur sur le monde de la psychiatrie, la transformation des schizophrènes en criminels, etc., etc. Et comment ça se vivait de l'intérieur. Elle avait une rubrique dans la revue qui s'appelait Hôpital Silence. Et c'est pour ça que longtemps après, quand j'ai enfin, en 2015, c'est ça, lorsque le théâtre de l'Institut Marcel Rivière a été rasé. 2017 a été rasé, c'est-à-dire un pan entier et un truc fondamental de la vie de Madeleine a été assassiné. On s'est retrouvé avec Olivier, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour que ça existe encore.
Ouais. Alors, la revue Cassandre n'existe plus, non plus. Et il y a quand même un successeur sur Internet qui s'appelle l'insatiable, l'insatiable.org. Et Madeleine, elle signait dans la revue Cassandre, ton nom c'était
Marie l'impatiente.
Voilà, Marie l'impatiente, l'insatiable, vous voyez où on en vient. Hein. Ici, Tempête sur les planches, notre émission, on en met quoi. Donc, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que justement, pour comprendre l'art, la fonction de l'art, il faut aller là. Maintenant, beaucoup d'artistes, de chorégraphes et autres sont venus travailler dans ces ateliers avec les patients dans vos ateliers de création aussi, parce que c'était pas dans un but thérapeutique, mais ils participaient comme des amateurs artistiques à des créations. Et les chorégraphes, danseurs de Black Blanc Beurre ont fait ça pendant 20 ans. José Montalvo, qui est devenu un chorégraphe très très célèbre depuis, il a fait ça de 1986 à 1993. Donc très longtemps aussi, sur la durée, c'était des aventures sur la durée. L'équipe Retour Ramon, avec sa danse verticale, les mimes de Doha 2, le clown très connu, Ludor Citric, tous ces gens-là, comment est-ce que ça les a marqués? Comment est-ce que ça les a construits de leur côté, ce travail?
Alors, on pourrait dire, il faudrait le leur demander. Je pense que chacun a son histoire.
Oui. Mais si on leur demande aujourd'hui, peut-être qu'ils vont dire, qu'ils vont préférer l'oublier. Je ne sais pas. Ça dépend de la personnalité de chacun. Alors, toi, tu l'as vu.
Ouais. Oui. Alors, justement, allait-il oublier cette histoire? Quand, avec Olivier Perrault, Nicolas Roméas, nous avons envisager de mettre par écrit quelque chose que je n'arrivais pas à écrire, justement. C'était l'histoire de l'art en psychiatrie, de la culture en psychiatrie. J'arrivais pas à écrire, j'étais coincé. Bon, et Nicolas m'a aidé à décoincer cette histoire et à la mettre par écrit. J'avais déjà écrit un livre, mais voilà, celui-là, c'est... Et alors, face à ta question, je suis allé demander à certains artistes qui étaient venus travailler à l'hôpital, qui témoignent par écrit, s'ils voulaient bien témoigner par écrit, de ce qui leur était resté de cette aventure. Tu en as cité plus d'un. Alors, Ludor Citric, Cédric Paga n'a pas écrit, mais je le mentionne. Plusieurs ont écrit, Étienne Guichard, Fabrice Guillot de Retour à Mont, etc. Il y a de très beaux textes, très très forts, Catherine Azola. Eh bien, moi, en fait, j'avais peur qu'ils ne veuillent pas écrire. Quand je leur ai téléphoné un à un, je me disais, ils vont pas vouloir raconter cette histoire, ils ont dû tout oublier, ou ne retenir que je ne sais pas quoi de médiocre. Et tous ont dit oui. Ceux qui n'ont pas écrit, qui ont été sollicités, c'est dos à deux, les deux Brésiliens, mais ils étaient complètement enthousiastes pour que cette histoire existe sur le papier. Et on a aussi le témoignage d'une psychologue qui nous soutenait, qui travaillait avec nous, et de trois infirmières, dont Josette Petitjean, qui a été particulièrement soutenante dans cette histoire littéraire, laisser des traces de ça. Alors comment ça les a marqués? J'ai envie de repenser là à ce que disait Bartabas du Cirque Zingaro, qu'on a reçu au tout début de cette aventure, donc début des années 80. Il a écrit quelque part, ces aventures humaines, les premières, m'ont marqué à tout jamais. Il a dit quelque chose comme ça. Alors, il nomme pas précisément Marcel Rivière, mais il se trouve que dans son parcours, nous sommes peut-être le premier dans lequel il s'installe pendant 3 mois, avant de parcourir la France entière, puis finir par s'installer à Aubervilliers avec les soutiens qu'on connaît. Ça a été difficile pour lui, mais à un moment donné, il se pose pendant 3 mois à l'hôpital psychiatrique, et ça va être un grand déclencheur d'une possibilité que les artistes peuvent venir dans l'enceinte de l'hôpital psychiatrique et créer des lieux de rencontre et d'élaborer ensemble. Donc voilà, alors Bartabas, lui, ce qui va le... Ça va participer à le construire, on peut dire, fondamentalement, puisque ce sont ses débuts. Quant à Montalvo, on pourrait dire que ses séjours à Marcel Rivière, ce plaisir que nous avons eu de partager son écriture chorégraphique, moi j'oserais dire qu'elle a marqué son œuvre, parce que dans son œuvre chorégraphique, il y a une véritable mixité sociale et culturelle, et c'est ce qu'on défendait à l'hôpital. La mixité, prendre des patients, des non-patients, des habitants, des artistes, des amateurs, des professionnels, une danseuse de flamenco, des danseurs de hip-hop, une danseuse de classique, et tisser tout ça, tricoter ensemble avec des fils de différentes couleurs et aller sur des espaces artistiques.
Et Madeleine est en train de danser ce qu'elle dit en même temps.
Voilà. Je trouve l'énergie dans le corps. Dans notre culture, on a un petit peu tendance à figer les corps. Alors résultat, on a y compris la pensée qui se rétrécit, parce qu'il ne faut pas bouger. Je fais partie des gens qui bougent et il n'y a pas que moi. Donc, oui, on a envie de danser parfois ce qu'on dit, mais c'est un peu tendance, la tendance est un peu, faut pas le faire, quoi. Peut-être que t'es un peu fou de bouger comme ça quand tu parles, mais je me demande si t'es pas un peu plus fou de tenir tout serré comme ça à tel point que tu trembles. Donc, quelles sont les normes que nous mettons en place pour tenir les corps et du coup pour tenir la pensée, finalement, à la rigidifier et nous faire rentrer dans des cases. Moi, je pense que c'est ça qui a marqué les artistes qui sont venus travailler avec nous à l'hôpital, cette possibilité d'ouvrir les cases, d'ouvrir la pensée et de faire communauté soignante.
Alors nous parlons de cet ouvrage, de ce témoignage de Madeleine Abbassade qui s'appelle « Danser avec les fous » et vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans publicité de la Fédération anarchiste, et on va demander une fois de plus l'avis de Léo Ferré.
Si l'on mettait le monde entier dans les chansons du coin de ma rue, ça me ferait de quoi voyager. Si l'on mettait le cœur des gens dans les manèges des forains, ça leur ferait de quoi s'aimer. Écoutez la chanson foraine qui parle des amants perdus, ça sent l'amour et puis la peine. Turlututu, chapeau pointu, il y a des artilleurs, il y a les bonnes enfants, il y a les vieux monsieur, il y a des gens heureux. Écoutez la chanson foraine qui parle des amants. Sans l'amour et puis la peine, turlututu, chapeau pointu, turlututu, chapeau pointu. Je te paierai un beau fusil pour massacrer tous ces pantins qu'on voit à la fête foraine. Et puis j'accrocherai ton cœur à ce manège de dessous qui moue bien tendrement. Écoutez la chanson foraine qui parle des amants perdus, ça sent l'amour et puis la peine. Turlututu, chapeau pointu, il y a des fiancés,
il y a des tas d'amas, il y a un bout de Paris, il y a tous mes soucis. Écoutez la chanson foraine qui parle des amants perdus. Ça se passe à Paris sur Seine. Turlututu, n'en parlons plus. Turlututu, n'en parlons plus.
Alors, c'est Tempête sur les planches sur Radio Libertaire 89.89, sans mettre, sans publicité de la Fédération anarchiste avec Thomas de Hambourg. Et allez, on va peut-être arriver à une synthèse. On a parlé justement de l'échangeur dans la première partie. C'est un lieu qui s'est construit lentement avec, vous y avez mis du vôtre beaucoup, ce qui est typique un peu pour des lieux de théâtre qui sont animés, construits, fondés par des compagnies. Justement, on peut penser au Théâtre du Soleil, on peut penser au Théâtre de l'Épée de Bois, la Cartoucherie. Mais donc, en ce sens, c'est quelque chose qui se construit, parfois un peu dans la douleur, n'est-ce pas? Et les livres aussi se construisent comme ça. Nicolas voulait nous raconter comment ce livre est venu à exister, finalement.
Peut-être je peux résumer ça, parce que comme c'est un travail d'éditeur chez Langage Pluriel, qui est dirigé par Claude Fauss, qui est une très belle maison d'édition, où je suis directeur de la collection Humain et Compagnie, et que nous avions tous vécu, dont j'ai parlé avec Olivier Perrault, Madeleine, et toutes ces choses vécues ensemble pour essayer de mettre en valeur l'essentiel de ce qui se passe avec le geste artistique dans la collectivité humaine, à un moment donné, donc je disais tout à l'heure, on a éprouvé cette nécessité de revaloriser cette chose, de lui redonner vie, au moins symboliquement, avec ce livre, et de transmettre aussi, et de transmettre à d'autres générations, parce que là, il y a quelque chose qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, de très 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 dangereux, qui est en train de se produire partout dans le monde occidental. Donc, on a demandé à Madeleine de raconter l'histoire de ce théâtre. Madeleine a raconté l'histoire de ce théâtre très très bien, avec tout, sans rien oublier, en partant même de l'histoire, de la partie historique des premiers théâtres dans les hôpitaux psychiatriques en France, avec la fameuse histoire du marquis de Sade, Charenton, etc. etc. Et on avait un très très beau livre informatique, très précis, qui rappelait le souvenir de ça, mais on n'avait pas tellement la présence de cet être particulier qu'est Madeleine Abbassade. Et on sait bien qu'il faut des êtres particuliers pour vivre des aventures spéciales. On sait bien qu'il y a des choses qui hantent les gens, qui leur donnent une force et qui permettent de construire un chemin. Alors j'ai essayé de faire parler Madeleine, et elle était un peu réticente à entrer trop dans l'intime, etc. Bon, j'ai un petit peu insisté, puis j'ai laissé tomber. Et puis au bout d'un moment, elle s'y est mise. Et elle a commencé à écrire tout ce qui lui était passé par la tête depuis qu'elle était enfant, à propos de la danse, à propos de certaines choses biographiques ou généalogiques plutôt, où il y avait des histoires de psychiatrie chez certains ancêtres, etc., etc. Et que tout ça résonnait finalement, et peut-être avait à voir avec cette motivation et ce désir. Donc, elle s'y est mise, et elle a écrit quelque chose qui aurait fait peut-être un deuxième livre, en fait. On avait deux livres assez différents. Et avec Olivier, on s'est attaché à construire quelque chose avec cet ensemble de choses où la narration est ponctuée de flashbacks, comme dans un film. C'est un peu du cinéma qu'on a fait. Et comme Olivier Perrault est un plasticien et un graphiste extrêmement talentueux, c'est un résultat très très beau aussi au niveau du texte et des images, avec une narration et interrompu régulièrement par des flashbacks qui montrent ce qui se passait dans sa tête quand elle était enfant, ce qui continuait à travailler en elle, le temps passant, etc. Et donc, on a les deux aspects. On a vraiment l'aspect historique et l'aspect
ce sont des flashbacks, des échos, des petites divagations ou des plongées dans l'histoire personnelle de Madeleine. Qui enrichissent, qui mettent en perspective ce qu'elle a vécu à Marcel Rivière. Voilà. Et ce livre sort donc maintenant presque une dizaine d'années après la destruction, après l'assassinat de ce théâtre. Bon, il n'y a pas de livre sur l'échangeur, hein, pas encore. Donc, puisque l'échangeur existe encore. Oui, voilà. Mais alors, ce qui est quand même très intéressant de vous avoir tous ici, c'est que vraiment, avec Danser avec les fous, là, on voit cette fonction, cette importance de l'action artistique, du lien qui se crée, et aussi à quel point c'est un substrat quand même d'une société où il y a quelque chose de sain. Dans la valorisation de l'autre, dans l'échange, je sais pas, après il y a des amitiés, il y a des idées qui peuvent se propager par la pratique. Tu n'as pas fait tout ça pour rien, Madeleine, n'est-ce pas? Il s'est passé quelque chose et ça a eu un écho, ça a transformé des choses aussi. Ça a construit des artistes après, etc., etc. Voilà. Et à l'échangeur. Donc, mercredi prochain, à l'échangeur, c'est un peu la même histoire. Donc, comme disait Nicolas, il faut des personnalités aussi pour créer quelque chose. Mais Régis aussi, il fait partie de ces personnalités qui sont là et qui enrichissent les communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent. Voilà. Alors, cette aventure-là, à l'Institut Marcel Rivière, elle rencontre aussi ce que vous avez fait à Bagnolet. Pas dans le sens où vous êtes mis à travailler avec des malades, etc. Mais vous avez construit quelque chose, une sorte de biotope, une oasis, dans quelque chose qui était, avant que vous y soyez, pratiquement un désert culturel. Vous avez transformé aussi la ville de Bagnolet.
Oui, enfin la ville de Bagnolet a une histoire sur le plan culturel assez forte. Voilà, toi qui t'intéresses beaucoup à la danse, les rencontres chorégraphiques internationales, avant c'était le ballet pour demain, et c'était un événement qui a accueilli une génération complète de tout ce qui a irrigué le territoire comme chorégraphe entre 80 et 2000. Quoi.
Oui, c'est très 75. Fameux dans l'histoire de la danse française, le concours de Bagnolet.
Et il n'y avait pas que ça, on a eu pendant de nombreuses années le compositeur, metteur en scène Georges Aperguis, voilà, avec laquelle j'ai eu un peu, lequel j'ai eu un peu la chance de travailler. Ça, c'était des figures marquantes sur le territoire et ça laisse des traces. L'échangeur est aussi une trace de tout ça. Enfin, il est aussi né de ces différentes expériences. Bon, je le dis d'autant plus qu'il se trouve que mon père était élu à la culture dans les années 70 et 80. Ah, donc, j'ai connu beaucoup de ces artistes et j'ai connu aussi beaucoup des plasticiens. C'était pour moi toujours une grande découverte de les voir arriver à la maison. Ils venaient manger le soir. Et ça m'a aussi beaucoup constitué, d'entendre des artistes comme ça parler, avoir des discussions avec mon père auxquelles je ne comprenais pas forcément grand-chose. Mais ça m'a marqué et constitué, bien sûr. Donc, c'est loin d'être un territoire où il ne se passait rien. Hein, parce que j'ai parlé des arts plastiques, j'ai parlé de la danse, j'ai parlé du théâtre. Je pourrais parler aussi de ce qui s'est passé autour des médiathèques, autour du Cinoche. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Mais effectivement, après, on est passé peut-être par une période où tout ça est tombé un peu plus en sommeil, a été un peu oublié. Et c'est vrai que l'aventure de l'échangeur vient un peu réanimer tout ça, parce que très tôt, j'ai axé les choses, bien sûr, autour du théâtre, puisque je suis d'abord metteur en scène, mais aussi ouvert à la musique et à la danse, qui étaient un peu les trois points d'appui voilà, des politiques culturelles sur cette ville. Voilà, mais je sais, voilà, c'est des aventures très différentes. Il y a aussi des artistes controversé. Par exemple, j'ai entendu parler tout à l'heure de Alexis Forestier. Bon, c'est quelqu'un qui a fait, je sais pas, une bonne dizaine de spectacles chez nous. Ça a été le premier artiste à venir. C'était encore en construction. On était en train de bâtir les murs et Alexis a débarqué en nous disant, alors, vous faites un théâtre. Je dis, mais comment tu sais ça? Voilà. Et donc, très peu de temps après, il a joué comme ça. Donc, il y a ces dimensions, effectivement, de construction, d'aventure de vie. Bien sûr que c'est plus que des métiers. On y passe nos vies et on y met toute notre énergie et peut-être quelque chose comme de notre âme.
Voilà. Donc, on répète le prochain. Bon, ce rendez-vous là, à l'échangeur, c'est mercredi prochain à 19h. Quand on est... Alors, oui, tu expliques comment il faut y aller... Maintenant que on ne sort pas de la bouche du métro à Gallienne, mais on sort du bus.
Oui, le bus il s'arrête juste devant le théâtre. En fait, quand on prend le métro, il y a un moment où la ligne s'arrête et on peut reprendre directement les bus qui suivent la ligne du métro, hein, l'équivalent voilà, qui arrive jusqu'à Porte de Bagnolet, puis ensuite qui rentre dans Bagnolet au carrefour de ces trois villes, Paris, Bagnolet et Montreuil, où se trouve précisément l'échangeur.
Et Madeleine et Nicolas, vous nous direz comment on peut trouver Danser avec les fous, ce livre qui vient de sortir.
Normalement, on peut le trouver dans les bonnes librairies. J'espère qu'on peut le trouver maintenant à Publico. Sinon, on va se débrouiller pour que ce soit rapidement fait. Et on peut aller sur le site de Langage Pluriel, langagepluriel.org, où on peut le commander directement en ligne et le recevoir. Voilà. Et... on peut aussi aller faire un tour sur l'Insatiable, comme tu disais tout à l'heure, où on aura des nouvelles des aventures de ce livre, des performances qui vont avoir lieu avec chaque présentation du livre, puisque nous allons organiser, comme nous le faisons pour chacun des livres que nous sortons, avec la sortie du livre, un geste artistique, un moment artistique, et puis un débat. Les gestes artistiques en question seront variables suivant les artistes qui souhaitent les faire, suivant les régions, suivant les lieux. On va faire de nombreuses expériences de ce genre, dont une qui aura lieu en septembre à la Guillotine à Montreuil. On en saura plus en allant sur Langage Pluriel et sur L'Insatiable.
Ah, la Guillotine à Montreuil, comment se porte-t-elle? Encore une question. Encore un de ces lieux, même pas intermédiaires, mais presque subversifs, clandestins. Voilà, encore une toute autre logique, très très intéressante, oui. Oui, oui. Bon, alors, je vous remercie d'être venu. Il fait chaud, il continue à faire chaud. On va peut-être avoir une nouvelle tempête sur les planches dans quelques temps. Ce sera annoncé toujours, comme toujours, dans les colonnes, là, le site internet radio-libertaire.org, où vous trouvez la grille des émissions, l'agenda des émissions, avec le contenu de tout ce qui vous attend. Et bien sûr, il faut aller à la librairie du Monde Libertaire, au 145 rue Amelot, dans le 11e. Et il faut soutenir Radio Libertaire, parce qu'on existe, nous, depuis 1981. Donc, ça a été créé au même moment où Madeleine Abbasad a commencé son aventure avec les patients dans la psychiatrie. Et Radio Libertaire est la voix de la Fédération anarchiste. Vous le savez très bien. Et on n'a pas de publicité, on travaille bénévolement, nous tous, toutes, et on ne sollicite pas de subventions, si, hein. Il y a quand même ce fonds de péréquation, mais ce ne sont pas des subventions directes, et ça diminue, là aussi on tombe sur la même... politique anti-culturelle, parce que nous sommes une radio militante, mais aussi une radio culturelle. Et alors, pour faire fonctionner cette radio, pour entretenir le studio, etc., pour le matériel et tout ça, mais ça coûte cher, voilà. Donc, on peut télécharger un bon de souscription aussi sur le site internet de la Fédération anarchiste ou sur le site de Radio Libertaire. On peut aussi envoyer un chèque établi à l'ordre de DMC. Donc, allez-y, hein, sur Internet, radio-libertaire.org. orgue. Voilà, c'était donc Tempête sur les planches. Et dans un instant, vous aurez de la musique, mais pas avec Michel Polizzi, parce que lui ne peut pas venir aujourd'hui. Il vous salue, mais il y aura de la musique tout de même.
Tout comme le linge confit sa honte à la douceur de l'eau, quand je t'aurai conté ma vie, malheureuse d'affreux salaud, mère, arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure, en dépit de son long sommeil, dans la douleur et dans l'ordure, revivre au soleil. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment.
Merci beaucoup, Loïc et Karim, merci beaucoup.
Millions de vies cachées dans des maisons de tôle, fourmis portant le monde sur tes épaules, qui plient mais ne rompt pas comme le saule. Fourmis portant le monde sur tes épaules. Thank you. sous le vent. Comme une feuille d'arbre pourrissant, jaune et doré sous le soleil couchant. Comme un chien qui s'est tué, et toi que deviens-tu? Je te demande, toi, que deviens-tu? Je te demande, toi, que deviens-tu?
Hijos del pueblo, te oprimen cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses, asas egoístas, que así desprecian a la humanidad, serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Trabajador, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavés no romperás, torpe burgués, atrás, atrás.
Bienvenue sur Micro-ondes 94, l'émission des syndicats de la CNT du Val-de-Marne.
Le gouvernement a le devoir de maintenir la paix publique et de protéger tous les citoyens sans exception contre les excès et la subversion.
Les provocations de quelques agitateurs professionnels.
Si les CRS n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu d'émeute. Ils seraient partis ce matin au petit jour manger leur café au lait.
Ceux qui sont pour nos grandes idées n'ont pas en vain combattu et les péris. Contre les richards et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris, nous lancerons la vengeance puissante et nous serons à tout jamais victorieux, ô frères.